On va ensemble ouvrir la parole dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24 et le verset 4. Je ne sais pas si vous aimez regarder ce qui se passe autour de vous et chercher dans la parole des éléments qui correspondent, des éléments soit qui vous encouragent, soit qui vous avertissent. Mais savez-vous que c'est exactement ce que fait la parole de Dieu? La parole de Dieu est cette lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et dans le temps que nous vivons, nous n'avons pas à être troublés, nous n'avons pas à être surpris même, parce que Jésus l'avait annoncé, tout simplement. Je trouve incroyable de voir comment le Seigneur a dit certaines choses et on ne mesure pas toujours la portée de ce qu'il dit, mais il l'a quand même dit. Et quand on sait de quand datent les évangiles, il y a quasiment 2000 ans en arrière, on peut se dire que c'est merveilleux. 2000 ans en arrière, des choses dites par le Seigneur s'accomplissent sous nos yeux. Et parfois, parce qu'on peut-être on connaît pas bien la parole de Dieu, on s'en rend même pas compte. Mais ce matin, on veut peut-être repasser ces choses sur nos cœurs. Oh, vous inquiétez pas, quand on reconnaît notre faiblesse, on ressemble beaucoup aux disciples en fait. Les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce passage? Regardez ce qu'il est dit, on va lire à partir du verset 1er. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Ils avaient un beau temple devant les yeux. Mais il leur répondit, « Voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura par endroits des famines, des tremblements de terre, et Luc rajoute des épidémies. » Ça vous fait penser à quelque chose. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. On va s'arrêter là pour la lecture, même si tout le reste est très intéressant pour déterminer les signes qui nous avertissent. Jésus a dit, on ne connaîtra ni le jour ni l'heure. Hein. Si vous entendez quelqu'un qui vous donne en scoop le timing de la fin des temps, soyez sur vos gardes. Parce que Jésus l'a bien précisé. Par contre, il nous a donné des événements qui nous alertent pour nous dire, on s'approche de ces moments-là. Quand on regarde ce chapitre, on pourrait quasiment cocher un par un tout ce dont Jésus est en train de parler. Et ce matin, je voudrais continuer sur la lancée de la semaine dernière. Ce qui est un des signes, il y a bien sûr les épidémies. On est dans une épidémie, mais je ne crois pas qu'on soit dans la dernière épidémie. Donc il ne faut pas être troublé, il faut prendre les choses comme elles sont. Compter sur le Seigneur, bien sûr. Faire ce qui est sage, mais aussi savoir qu'il risque d'arriver d'autres choses. Mais le point sur lequel je voudrais appuyer ce matin, c'est le fait qu'il y aura des faux prophètes, des fausses doctrines, des choses qui sont annoncées sous une certaine apparence et qui en fait ne sont pas ce qu'elles semblent être. C'est un signe de la fin des temps. Serions-nous dans cette réalité-là ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez YouTube pendant 10 minutes en tapant Jésus chrétien, et vous allez voir tout ce qui sort. Et il y a des choses très bonnes, et il y a des choses très mauvaises. Il y a de tout. Mais Jésus l'avait annoncé, et une des conditions qui est essentielle pour le Seigneur, c'est que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui quittent leur pays, qui sont des missionnaires et qui vont traduire la parole de Dieu à des personnes qui ne peuvent pas la lire sinon que si on ne leur traduit pas. Et donc, ils font ce travail-là. Il y a des hommes et des femmes, et on est bien placé avec la famille Bordeneuve pour savoir qu'il y a des hommes et des femmes qui partent en mission annoncer la parole dans des pays étrangers, avec tous les risques que ça implique, afin que des hommes et des femmes entendent parler de cette bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle, d'ailleurs? J'ai entendu Jésus. Ah oui, ça veut dire tout. Hein, la bonne nouvelle que Jésus a donné sa vie pour nous à la croix, pour que nous puissions avoir une vie nouvelle. Oh, non pas qu'on va être transformé physiquement, hein, c'est pas ça, mais dans notre cœur, quelque chose se passe le jour où on accepte cette réalité. Jésus est venu sur la terre, le Fils de Dieu s'est incarné dans un corps de chair pour mourir à la croix, pour que tous nos péchés puissent être effacés, pour qu'on puisse être pardonné, pour qu'on puisse accéder, comme on l'a chanté, au trône de la grâce de Dieu. C'est merveilleux. Parce que personne sur cette terre ne mérite ça. Mais par la grâce de Dieu, on peut le vivre. Voilà la bonne nouvelle. Vous savez d'ailleurs que, en ce moment, même les autorités se posent la question, qu'est-ce que c'est les évangéliques? Quand on entend parfois ce qui est dit par rapport aux évangéliques, il n'y a pas longtemps, j'entendais un témoignage d'un député qui faisait tout un amalgame entre ceux qui ont fait le coup d'État à Washington, vous savez, tout ce qui s'est passé là, et les évangéliques de France en plus. Des choses qui n'ont rien à voir ensemble, on mélange tout. Et c'est des autorités de notre pays. Mais qu'est-ce que ça veut dire évangélique? Évangélique, ça veut dire quelqu'un qui aime l'évangile. Qu'est-ce que c'est l'évangile? L'évangile, c'est la traduction, c'est le mot grec qui est traduit par bonne nouvelle. Ça veut simplement dire on a une bonne nouvelle et on veut la proclamer. C'est ça, évangélique. Vous êtes d'accord avec ça? C'est rien de plus. Mais c'est tellement bien déjà, c'est tellement assez. On veut proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce qu'on sait que ça fait partie de notre mission, de ce que le Seigneur met sur notre cœur. Parce que quand on a une bonne nouvelle, ben on a envie de la partager autour de soi, tout simplement. Et c'est exactement ce que le Seigneur dit. Mais quand il nous dit de faire ça, il nous dit aussi, attention, parce que d'autres personnes, sous couvert de vous annoncer de bonnes nouvelles, vont essayer de vous piéger. Et c'est important d'avoir toujours cet œil aiguisé, d'avoir toujours ce discernement. D'ailleurs, si on va au chapitre 7, Jésus n'a pas commencé à mettre en garde sur les faux prophètes à la fin de son ministère, dans ce chapitre 24 seulement, mais il l'a fait plusieurs fois et on le retrouve une des premières prédications de Jésus-Christ quand il était sur la terre. Le sermon sur la montagne. Dans ce long sermon, on connaît bien le début, les béatitudes, heureux, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, on connaît tout ça. Mais souvenons-nous aussi qu'il y a le chapitre 7, et le chapitre 6 et le chapitre 7 aussi qui sont là, dans la même pensée. Matthieu chapitre 7, verset 15, qu'est-ce qu'il est dit? Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Gardez-vous, ça veut dire faites attention pour bien discerner les faux prophètes. Ça veut dire tout ça. Gardez-vous. Ça veut dire que le chrétien, le croyant, celui qui cherche Dieu, celui qui a soif d'entendre la bonne nouvelle de Jésus, il doit avoir ce discernement dans son cœur. Il doit prêter attention à ce qu'il entend, à ce qu'il regarde, à tout ce qu'il côtoie même, dans la mesure où il peut y avoir des faux prophètes. Alors attention! Je ne suis pas en train de dire il faut épier celui qui est assis à côté de nous pour voir si c'est un faux prophète ou pas. On est dans la méfiance, le soupçon. Justement, l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc non, il faut être dans la confiance. Il faut être dans la joie, dans la paix. Mais c'est quand quelqu'un prend une position d'autorité en disant « je vais t'enseigner ». Dans ce cas-là, on a le droit en tant que croyant de dire « ok, mais je vais vérifier si c'est bien selon la parole de Dieu ». Et vous avez parfaitement le droit ce matin de le faire envers moi, puisque je suis dans la position d'enseigner, d'accord? Moi, ça ne me gêne pas, dans tous les points qu'on va décrire, que vous puissiez dire, attendez, je vais vérifier si ça correspond ou pas. Parce que c'est comme ça qu'on doit faire. Quand Paul même, l'apôtre Paul, c'est pas n'importe qui, hein, il a écrit les deux tiers du Nouveau Testament, l'apôtre Paul. Mais quand il prêchait, les chrétiens de Bérée vérifiaient dans les Écritures si ce qu'il disait c'était correct. Et ça, c'est bien. C'est la bonne attitude. C'est comme ça qu'on se garde des faux prophètes, quand on s'alimente de la bonne nouvelle, de la parole de Dieu. Jésus donc nous dit, ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous avez déjà réfléchi à ça? Quelles sont les intentions d'un loup au milieu d'un troupeau de brebis? Vous avez déjà fait l'expérience? On le voit à la télé, mais qu'est-ce qui se passe? Mais le loup, même s'il a, on le déguise avec un vêtement de brebis, son intention, ça va être de dévorer. Demandez à la chèvre de Monsieur Seguin ce qui se passe. C'est compliqué pour les chèvres ou les brebis face à un loup. Mais déjà là, c'est un enseignement. Quelles sont les intentions de ceux qui m'enseignent, de ceux qui veulent m'apporter une vérité? Quelle est l'intention de la personne? Est-ce qu'il y a des bonnes intentions? Moi, je vous le dis, vous me croyez ou pas, mais moi, je vous dis que mon intention ce matin, c'est que de vous transmettre ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est que ça. Donc, je pense que c'est une bonne intention. Ben, sinon, je ne ferai pas ce travail, hein, tout simplement. Mais c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur de faire, donc je vais le faire avec joie. Mais il peut y avoir des mauvaises intentions. Est-ce que dans ce monde, on a déjà vu, est-ce que dans les églises même, on a déjà vu des gens qui avaient de mauvaises intentions dans l'enseignement? Oui, malheureusement. Pierre dit, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Quand on voit la description qu'il fait, il dit, dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses. Donc l'intention de ces personnes qui sont dénoncées par l'apôtre Pierre, c'est quoi? C'est de s'enrichir, et il y a la même pensée dans Timothée d'ailleurs, c'est de s'enrichir avec la foi. Est-ce que c'est possible de s'enrichir avec la foi? Ben, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des doctrines qui disent « si tu crois en Dieu, tu es riche ». C'est obligé. « Si tu crois en Dieu, ton compte en banque il doit dépasser le million ». C'est facile à dire ça, hein, ça, et c'est appétissant quand on entend ça. C'est mieux que le loto, il suffit de croire. Et... ouais, mais sauf que c'est pas la parole de Dieu, ça. Et la parole de Dieu, ce n'est pas une source de gain. La parole de Dieu, c'est un enrichissement spirituel. Dieu peut faire grâce parfois, il y a des situations où Dieu, on est dans le besoin, Dieu nous aide, mais il ne va pas faire en sorte qu'on devienne millionnaire tous, parce que ce n'est pas son plan. Il sait combien l'argent est la racine de tous les maux, il sait que l'argent peut nous conduire à vivre sur nos acquis et à nous détourner de Dieu. Voilà pourquoi on ne veut surtout pas annoncer un évangile où on met en avant cela, parce que ça, ce n'est pas la saine doctrine. Et quand quelqu'un le fait... ben, on sent que derrière, il y a une mauvaise intention. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe quand vous entendez ces personnes-là. J'ai un exemple concret. On m'a conseillé de voir une vidéo parce que la personne se posait une question. Est-ce que c'était bien ou pas? Elle était un peu craintive. Dans la vidéo, c'était un pasteur. Un pasteur, ça se passait en Afrique, mais je ne me souviens plus quel pays. Et il racontait avec beaucoup d'émotion un songe qu'il avait eu. Il a eu un songe. Et il a vu comme le jugement de la fin des temps, et il a vu que des pasteurs, des églises étaient jugés sévèrement parce que justement ils annonçaient la prospérité, ils annonçaient la prospérité financière. Et il racontait cela, il avait parfois les larmes dans les yeux, c'était touchant. Et il disait vraiment, il a invité les personnes à se repentir, à revenir à eux. C'est pas parce qu'on parle de Jésus que tout est parfait. C'est pas parce qu'on parle de Jésus qu'on peut annoncer n'importe quoi à côté. Et vraiment, il racontait ça avec force. Sauf que, en regardant la vidéo de plus près, il y a des choses qui m'ont un peu gêné, moi. Parce que le pasteur en question, il avait la superbe montre en or, il avait la superbe chaîne en or, et le pire de tout ça, c'est à la limite. Bon, il peut vouloir bien s'habiller, on lui accorde, allez. Mais le pire, c'est que toutes les 5 minutes, il y avait une publicité qui apparaissait pendant sa vidéo. Soutenez le ministère, donnez-nous, envoyez telle somme. J'ai dit, c'est tellement dommage. Il dit des choses vraies, des choses pertinentes, et en même temps, il montre le contraire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Ben, souvenez-vous, retenez ce qui est bon. Éprouvez toute chose. Je prends le message qui est bon, je me l'applique à moi-même, mais l'exemple qui est donné, je ne le prends pas par contre. Il ne faut pas tout jeter en bloc, mais il faut trier et prendre la nourriture dont on a besoin. Mais c'est tellement important de discerner les intentions des personnes qui nous enseignent. Il y a des personnes bien intentionnées, merci Seigneur, et gloire à Dieu, et plaise à Dieu que nous soyons les uns et les autres bien intentionnés les uns envers les autres pour nous exhorter, pour nous encourager, mais il y a parfois des personnes mal intentionnées. Et il faut demander au Seigneur son discernement. Si vous savez que quelqu'un est mal intentionné envers vous, est-ce que vous allez lui ouvrir votre maison? Est-ce que vous allez lui faire pleinement confiance? Est-ce que vous allez tout lui raconter de votre vie? Bien sûr que non. Voilà pourquoi le Seigneur dit « Attention, il y a des loups qui sont déguisés en brebis et qui veulent faire du mal. » Mais regardez l'exemple de Jésus. Je ne veux pas rester sur du négatif, je veux voir aussi ce que le Seigneur a fait. Qu'est-ce qu'il est dit de Jésus? Est-ce qu'il est parlé que Jésus est venu comme un loup qui va déchirer? Non, Jésus est venu comme l'agneau de Dieu. J'aime cette image. Il n'est pas venu seulement comme le berger, mais il est venu même comme l'agneau de Dieu. Un simple, fragile agneau, il est dit, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà la bonne nouvelle. Jésus est venu ôter ce que toutes les traditions n'avaient jamais pu ôter, effacer le péché de l'humanité. Jésus est l'agneau de Dieu et il n'est pas venu pour prendre quoi que ce soit, il est venu pour donner, offrir sa vie, offrir ce sacrifice que nous, on n'aurait jamais pu faire à sa place. Vous savez que si on était mort à la croix pour notre péché, ce n'était que justice. Vous avez déjà réalisé ça? Mais ça n'aurait rien fait de plus. Le seul résultat du péché, c'est la mort. Mais Jésus, lui, il a permis qu'il meure à notre place pour que nous ayons la vie. Il est venu nous donner la vie et la vie éternelle en abondance. Et voilà la bonne nouvelle que nous voulons passer sur nos cœurs. Regardez la suite de ce verset. Ce sont des principes tellement importants et qui sont vrais même, que ce soit dans le domaine de la doctrine ou dans tellement de domaines. Est-ce que vous voulez savoir si la personne que vous côtoyez va vous apporter du bien? Mais regardez ce que le Seigneur dit. Verset 16. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quand la Bible parle du fruit, elle parle bien sûr de ce qui est produit de nos vies. D'accord? C'est pour ça qu'il y a donné cet exemple de cueillir des raisins sur des épines. Vous avez déjà essayé de voir des buissons d'épines et de faire du vin avec le raisin des buissons d'épines? Mais non, ça marche pas, hein. Il n'y a pas de raisin. Il n'y a que des épines, ça, c'est blessant. Alors ça paraît tellement évident, ces des vérités sont tellement évidentes presque on ne s'y attarde pas, mais elles sont tellement importantes en fait. C'est un principe qui est bon même hors de la foi en fait. Parce que dans tous les domaines, il faut regarder le résultat. Ce n'est pas juste les paroles qui comptent, mais c'est le fruit de la personne. Qu'est-ce qu'elle produit dans sa vie ? On peut me dire avec la bouche plein de bonnes choses, mais qu'est-ce qui se passe quand je côtoie cette personne? Est-ce que je me pique? Ou est-ce qu'au contraire, ça me fait du bien? C'est ça que le Seigneur nous dit. Discernons non seulement les intentions, mais discernons aussi les fruits. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, avoir entendu parler d'une vidéo. Alors déjà, ça commençait, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais à l'époque, ça commençait tout juste. C'était dans les années 2007-2008. Il y avait une vidéo qui circulait partout et les gens disaient « Waouh, c'est super, un homme, il a reçu vraiment quelque chose de Dieu. C'est un prophète, c'est un prophète. » Bon, moi, par curiosité, moi je suis toujours méfiant, franchement. Quand j'entends parler des choses où on se donne beaucoup de titres, je crois que c'est le Seigneur qui qualifie, c'est pas à nous de nous qualifier. Hein. En tout cas, bon, j'ai regardé par curiosité. Mais j'ai toujours à l'esprit, gardez-vous des faux prophètes, donc j'analyse. Et le monsieur parlait, commence à dire un témoignage, et il a une voix forte, il parle bien, de l'éloquence, il y met tout son cœur aussi dans ce qu'il dit, mais il commence à raconter un témoignage, bon, beaucoup de choses surnaturelles. Alors, on peut se dire, Dieu est puissant, Dieu peut le faire, hein. Moi ça ne me gêne pas, Dieu peut faire des choses surnaturelles, j'y crois tout à fait. Mais à un moment donné, il dit une prophétie. Il dit, voilà, le Seigneur m'a montré de manière claire. Hillary Clinton va être le prochain président des États-Unis. Et là, j'étais content. Parce que j'ai dit, ben on va voir. J'ai dit, comme ça, on va pouvoir voir si c'est un vrai prophète ou pas. Est-ce que c'est pas ce que dit la Bible ? Savez-vous que la Bible nous donne ce moyen-là pour savoir si ce que l'on entend et ce qui est annoncé est vrai ou pas ? Regardez, parce que vous me regardez avec un air dubitatif, Deutéronome chapitre 18. C'est important de connaître ça. C'est un autre principe qui permet de savoir si ce que l'on entend est bon ou pas. Deutéronome chapitre 18, le verset 21. Donc c'est question d'un prophète qui annonce une parole de la part de l'Éternel. « Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite ?» En gros, comment reconnaîtrons-nous de fausses prophéties ? Comment ? Eh bien, on se pose la question et on a la réponse. « Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace ou par arrogance que le prophète l'aura dite, tu n'en auras pas peur. » Est-ce que c'est écrit ? Vous avez confirmé avec moi que c'est écrit. D'accord ? Et vous voyez, en fait, ça paraît tellement évident. Mais c'est un bon moyen de savoir si la personne qui prophétise, à qui veut l'entendre, elle est envoyée de Dieu ou pas. Donc, j'ai attendu, j'ai regardé avec beaucoup d'assiduité le résultat des élections. Et il se trouve qu'en fait, à cette année-là, Hillary Clinton n'a pas dépassé le stade des primaires dans son parti politique, puisqu'il y a un certain Barack Obama qui a gagné dans son parti et qui a été élu président par la suite. Et là, j'ai dit, ben voilà, j'ai ma réponse. J'étais un peu gêné par ces expériences supra-surnaturelles, mais derrière, en fait, c'est que il n'y a pas du bon fruit, parce qu'on annonce des choses qui ne sont pas. Et je sais, j'ai regardé encore récemment, quelqu'un a refait la même chose pour l'élection avec Donald Trump. Et encore Hillary Clinton, je ne sais pas pourquoi ils veulent que ce soit elle, mais elle n'est pas passée. Je ne dis pas que M. Trump, c'est le bon choix, hein, mais je ne veux pas rentrer dans la politique. Mais voilà, n'annonçons pas des choses en disant que ça vient de Dieu alors que ce n'est pas le cas, tout simplement. Et la Bible nous donne des moyens de savoir si c'est vrai ou pas. Quel est le fruit que l'on produit ? Vous savez cette image, quand Jésus voit un beau figuier plein de feuilles, mais qu'il n'est pas satisfait, le Seigneur, il dit, mais où est le fruit de ce figuier ? Un figuier n'est pas là pour produire que des feuilles, il doit faire du fruit. Un chrétien doit produire du fruit. On peut avoir de belles feuilles, de belles apparences, de beaux costumes, de belles paroles, mais le Seigneur, lui, regarde le fruit de nos vies. Et c'est ça qui compte. Et c'est ça que, personnellement, nous voulons développer. Le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, ça montre ma foi. Ça montre la réalité de cette piété que l'on a avec le Seigneur. Mais donner de fausses prophéties, mais ça joue contre nous. Alors, est-ce que parce qu'une fois on s'est trompé dans une fausse prophétie, notre ministère est fichu ? Excusez-moi l'expression. Non, après, franchement, si ce monsieur avait dit, voilà, j'ai dit ça, mais je vous demande pardon parce que je l'ai dit de moi-même. Mais je ne sais pas s'il a fait ça, j'ai aucune idée de la suite que cet homme a fait. Mais Dieu est celui qui attend ceux qui reviennent à lui. Il ne condamne pas. Mais par contre, souvent, malheureusement, j'ai vu des gens qui donnaient des fausses prophéties. Ça ne s'accomplit pas. Ah, mais oui, mais je me suis trompé dans mes calculs. Et ils redonnent une autre fausse prophétie qui ne s'accomplit pas encore. Ah oui, mais c'est parce que vous n'avez pas bien compris. Non, 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 cherchons pas d'excuses. Soit on reçoit les choses de Dieu claires, nettes, précises, ça s'accomplit. Soit on ne les reçoit pas. C'est simple, la foi. Hein, c'est très simple. Et on a besoin d'être éclairé par le Seigneur, tout simplement. Regardez un deuxième moyen infaillible. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 1er. Le premier, c'est de voir si ce qu'on nous dit s'accomplit ou pas. Et le deuxième qui nous est donné par Jean, Jean est surnommé l'apôtre de l'amour. Jean était celui qui avait l'habitude de poser sa tête contre le cœur du Seigneur. Donc il avait une relation privilégiée avec le Seigneur. Et dans la fin de sa vie, il a été vraiment une source de bénédiction pour les églises. Regardez ce qu'il dit par rapport à ce qu'on parle. « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Amen. La question qu'il faut se poser, si on veut savoir si ce que l'on entend est bon ou pas, si la foi que l'on partage, elle est bonne ou pas, c'est de savoir qu'est-ce qui en ressort concernant la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est dit de Jésus ? Vous savez qu'aujourd'hui, dans notre monde, il y a des religions pseudo-chrétiennes, et je dis les choses telles qu'elles sont, qui se présentent comme des religions chrétiennes, mais qui, en fait, dans la position de Jésus-Christ, ne le croient pas qu'il soit le Fils de Dieu, ou ils dévalorisent Jésus-Christ. Mais savez-vous, frères et sœurs, que chrétien, ça veut dire petit Christ. Ça veut dire que la position de Jésus-Christ dans notre foi, elle est essentielle. Si on touche à ça, on touche à toute notre foi. Alors, si vous posez la question, quelle religion, venez me voir à la fin, on en discutera, on n'a pas le temps de venir là. Mais dans la mesure où une personne croit que Jésus est mort pour elle à la croix, ben, là, ça va. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, on pourrait rajouter Jésus, sera sauvé. D'accord ? C'est pour ça que c'est essentiel. La foi vient de la parole de Christ. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et nous avons besoin de laisser le Seigneur nous montrer qui il est vraiment. Il n'est pas seulement un homme, il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur, il est le Seigneur. Et il doit avoir cette place dans chacune de nos vies. Et on termine avec Matthieu, on revient à Matthieu chapitre 7, verset 21. Jésus appuie davantage en disant « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront ces jours-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. » Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est des paroles sévères, hein, quand même. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a dans la bouche un langage chrétien que tout va bien. Dieu attend plus que ça. Bien sûr qu'il faut avoir un langage chrétien. Bien sûr qu'il faut avoir de belles paroles. Bien sûr qu'il faut que nos paroles soient même inspirées de la parole de Dieu. Ça, c'est une réalité. Mais ce n'est pas suffisant en soi. Il faut que nos paroles soient confirmées par nos actions, par notre obéissance. Regardez ce avec quoi le Seigneur met en contraste. Celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Comment savoir si ce que je fais, c'est la volonté de Dieu ? Alors vous savez, quand on pose la question aux jeunes, aux ados, quand on leur demande des questions, il y a souvent une question qui revient. C'est comment est-ce que je sais que je suis dans la volonté de Dieu ? Ou comment est-ce que j'arrive à discerner la volonté de Dieu ? Et c'est une question essentielle, hein ? Mais un bon moyen pour commencer, c'est pas difficile, c'est de lire la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, il y a une réalité de ce que Dieu nous demande, de ce que Dieu nous commande de faire. Il y a par exemple un texte qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Si je fais un copier-coller de ce que le monde fait et que je l'adapte à ma foi, je risque de passer à côté de la volonté de Dieu. Voilà ce qui est dit. Mais si je laisse le Saint-Esprit me renouveler mon intelligence, si je n'essaye pas de calculer avec mes raisonnements humains pour m'en sortir, mais que je demande au Seigneur son aide, il va me montrer quelle est sa volonté pour ma vie. Et ça, c'est clair. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ces temps où le Seigneur vous montre qu'est-ce que vous devez faire ? Est-ce que c'était bien ? Est-ce que c'était rassurant ? Mais pour l'avoir vécu plusieurs fois, je peux vous dire que c'est merveilleux. Quand on sait, quand le Seigneur confirme, il nous dit « oui, va dans ce... » Je ne dis pas pour n'importe quoi, pour tous les choix de notre vie, pour savoir quel pantalon on va mettre le matin. Non, quand même, on est grand. Le Seigneur nous fait confiance, mais c'est pour les choix vitaux de nos vies. Quand il s'agit d'un travail, quand il s'agit des études pour les jeunes, quand il s'agit d'un conjoint, d'une conjointe, on a besoin de connaître quelle est la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur veut nous faire du bien. Le Seigneur veut prendre soin de nous. Le Seigneur est celui qui nous a montré le divin exemple. Vous savez que Jésus a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu ». Vous avez vu le niveau ? Jésus n'est venu sur la terre que pour faire la volonté de son Père. Est-ce que non, c'est pas un bon exemple à imiter ? Si nous voyons quelqu'un qui dit de belles paroles mais qui, dans son être, ne le fait pas, fuyons, frères et sœurs. Oh, c'est pas dire d'avoir peur, hein, mais perdons pas notre temps, c'est ça. Mais si nous voyons quelqu'un qui a du bon fruit, quelqu'un qui a des bonnes intentions, quelqu'un qui a une foi vivante, profonde, une piété authentique et réelle, ben alors là, n'hésitons pas, hein, joignons-nous et ensemble encourageons-nous et ensemble avançons et ensemble annonçons à ce monde la bonne nouvelle. Parce qu'il en a tellement besoin de bonnes nouvelles en ce moment. Vous trouvez pas ? Notre monde a besoin d'entendre de bonnes nouvelles et nous on en a une magnifique. Jésus est capable de sauver encore aujourd'hui. Jésus est capable de donner la vie nouvelle encore aujourd'hui. Jésus est capable de guérir quelqu'un qui s'approche de lui avec un cœur sincère encore aujourd'hui. Jésus est tout puissant. Jésus est vivant. Jésus est sur son trône. Il règne. Et nous voulons nous approcher de lui simplement. On va fermer les yeux, terminer ces moments et prier ensemble. Croyant que notre Dieu, qui est vivant, regarde dans ces moments. Savez-vous que le Seigneur regarde, ses yeux parcourent toute la terre, en ce moment même, pour voir ceux dont le cœur est tout entier pour lui. Est-ce que notre cœur, est-ce que ton cœur, mon frère, ma sœur, mon ami qui est là ce matin, est-ce que ton cœur est tout entier pour Dieu ? Est-ce que tu t'es laissé peut-être troubler par des doctrines ? Le Seigneur te rappelle avec douceur que tu dois faire attention, discerner. Est-ce que tu as entendu la bonne nouvelle mais tu n'y as pas encore adhéré ? Le Seigneur t'invite encore ce matin à saisir dans ton cœur cette simple nouvelle qu'il est venu par amour pour toi donner sa vie. La croix n'est pas une œuvre lointaine. La croix, c'est une œuvre éternelle. Cette œuvre que le Seigneur a faite de salut, de guérison, de consolation et d'encouragement afin de nous donner la vie nouvelle. Ce matin, Seigneur, nous voulons venir devant toi de tout notre cœur. Nous voulons réaliser que tu es ce Dieu qui prend soin de nous, qui nous encourage par des avertissements, afin que nous ne puissions pas être troublés, confus dans ces temps que nous vivons, mais que nous soyons pleins d'espérance. Ce matin, Seigneur, par le Saint-Esprit, nous désirons recevoir de toi ta paix, recevoir de toi, Seigneur, ta lumière pour nous guider dans ce que nous devons faire. Nous voulons recevoir de toi aussi et surtout ton amour. Oui, ce chant nous rappelle que ta grâce coule de la croix. Et nous le savons, Seigneur, que c'est vrai, que de la croix, la grâce coule avec abondance. Et nous savons que ce matin encore, ce fleuve de grâce et d'amour coule dans ce lieu, sur tous ceux qui ouvrent leur cœur, sur tous ceux qui acceptent, sur tous ceux qui désirent vivre quelque chose avec toi. C'est ce que nous désirons, Seigneur. Humblement, nous ne pensons pas être meilleurs que qui que ce soit, mais nous entendons cette bonne nouvelle. Et nous voulons la recevoir personnellement. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Et aide-nous dans les jours qui viennent à toujours avoir cette vigilance dans les choses que nous entendons ou que nous voyons, afin d'être toujours porteurs de la bonne nouvelle et pas d'un autre message, pour que ton nom soit glorifié Seigneur. Amen.